Vous annoncez aussi dans votre discours sur la FME que vous allez, et je pense que c'est une des mesures qui pourrait permettre tout ça, que vous allez imposer la biconditionnalité du financement et des aides publiques, le principe de non-régression et la fiscalité écologique. Alors, c'est un programme qu'on retrouve dans les programmes écologistes depuis des années et qu'on trouve dans toutes les conventions signées par la France, contre laquelle la France est engagée d'une certaine manière à Nagoya. On s'est engagé sur la biconditionnalité des aides. Bon, la PAC s'est engagée sur la biconditionnalité des aides. Si vous allez au gouvernement, comment vous allez imposer cela? Parce que le PS n'est pas du tout favorable à ces positions.
Donc, encore une fois, c'est le rapport de force. Je pense que chez nous, ça, c'est la position que nous souhaitons appliquer. Est-ce que nous allons arriver à l'imposer au gouvernement? Mais ça dépend, je vous dis, encore une fois, de mon score et de l'opinion publique. Je pense que c'est les deux. Et évidemment, la difficulté que nous affrontons, et vous le savez tous, c'est aussi le vote utile. C'est-à-dire que on peut avoir plus de personnes qui soutiennent nos positions, qui aimeraient voter écolo, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur du 21 avril. Mais on est encore loin et ça peut encore beaucoup changer.
Le principe de non-régression, il peut s'imposer comment?
Mais ça peut être un principe constitutionnel, c'est-à-dire qu'aucune nouvelle loi, aucune nouvelle règle peut permettre de réaugmenter les émissions de CO2. Mais déjà, le dire clairement et l'avoir comme ligne de conduite dans nos 5 années de gouvernement est important.
Il y a une question par là.
Il
n'y
a pas de question. Laurence Mathieu, pour les aides des communes, je voudrais que vous nous parliez de ce que vous projetez pour les collectivités locales. D'une certaine manière,
exercer
un rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire un rôle qui vous échappe. Ouais. Et je voulais savoir ce que vous prévoyez concernant leur intervention en matière de lutte contre l'étalement urbain, la lutte contre l'artificialisation des terres, la rénovation du bâti. Est-ce que vous renforcez les compétences, voire est-ce que vous envisagez vous aussi un nouvel acte de la décentralisation?
Le rôle des collectivités territoriales local est évidemment primordial dans la mise en œuvre de toute la réglementation écologique. Et en ce qui concerne l'artificialisation des territoires, on voit bien que c'est le permis de construire qui compte. C'est de refuser le permis de construire qui mite le paysage, qui permet de construire des grands parkings autour de supermarchés ou tout le reste. Je pense que les maires sont trop fragiles et qu'il faut que les permis de construire reviennent à l'intercommunalité, à l'agglomération. Donc un transfert de compétences des communes vers l'agglomération pour mettre un peu plus de distance entre l'autorité qui autorise la construction et les maires. Ça, c'est très frappant dans les visites que je fais des territoires. J'étais près d'Arras, où une société espagnole veut construire une centrale à gaz. C'est sur le territoire d'une commune de 300 habitants. Et lorsque l'agriculteur peut vendre son terrain 10 fois plus cher que... C'est difficile pour le maire de résister, parce que le maire se dit aussi, je vais avoir des taxes qui vont rentrer pour ma commune, je vais pouvoir construire une salle polyvalente, une piscine, même si on n'est que 300, quoi. Donc, on voit bien que mettre plus de distance est important. Donc, pour répondre à votre question, urgence de revenir sur la réforme des collectivités territoriales, de faire une véritable décentralisation avec des moyens, et je vais même plus loin. Moi, j'aimerais que la France devienne un État fédéral avec des régions qui ont des vrais pouvoirs d'autonomie et aussi le pouvoir d'élever des impôts et avoir une politique locale adaptée. Je pense que nous sommes le pays le plus jacobin de la Terre et que de ce jacobinisme vient beaucoup de nos malheurs, je pense qu'il y a un lien entre cette direction très centralisée du pays et les centrales nucléaires. Ça, c'est le même système. Et donc, les énergies renouvelables dans les territoires, gérées par, dans les territoires, par et pour les citoyens, avec un financement citoyen. Les énergies renouvelables ne doivent pas venir d'en haut, elles doivent pousser des territoires. Et donc, c'est un facteur de prise en charge de son destin. C'est un facteur démocratique. Et donc, sortie du nucléaire, accompagnée et sur une période de 20 ans, est aussi un élément d'une démocratie vivante. Moi, je n'ai pas, vous me pardonnerez, je n'ai pas de secrétaire qui prépare ma revue de presse. Et comme j'avais rendez-vous avec vous, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, c'est la bêtise récurrente d'Éric Besson qui est complètement réfractaire à toute analyse en profondeur et une vision autre de la société. Pour Éric Besson, il n'y a que l'augmentation de la consommation, c'est inéluctable, et il faut que les pouvoirs publics répondent à cette augmentation des besoins. C'est comme ça qu'il pense Éric Besson. Ce n'est pas moi, madame, de l'expliquer. Hein? Moi, je porte le message et je fais le mieux que je peux. Le fait que les gens pensent qu'ils peuvent continuer à piller la terre, à vivre à 25 degrés, même s'il fait moins 30 dehors, et se foutre du fait que les centrales nucléaires vont la péter à la figure dans moins de 15 ans, ce n'est pas simplement un problème d'audibilité de message. C'est un problème d'opinion publique, c'est un problème de culture. C'est un problème de comprendre ce qu'on sait. C'est tellement plus agréable d'avoir un discours qui dit « Vous allez tous devenir plus riches, vous allez tous pouvoir vivre dans une opulence encore plus grande » que d'être raisonnable. Et je pense que c'est la rencontre du refoulé et du repli sur le passé plutôt que de hausser. Imaginez ce que pourrait être notre société. Tous les bienfaits que nous pourrions tirer de cette société. Parce que le nucléaire qui préconise Éric Besson, c'est totalitaire. C'est totalitaire. C'est secret. Je vous invite d'aller à Fukushima et de voir le déni dans lequel vivent les gens autour de la centrale, dans le langage officiel. Et notre gouvernement y contribue. Ils y vont en disant... Areva et EDF savent, ne soyez pas inquiets, chers amis japonais, nous saurons décontaminer l'eau, nous avons des technologies. C'est pur mensonge.
Mais croyez-vous pas que c'est l'occasion, justement, un appel comme celui-là, de lancer une campagne moins complexe, plus précise contre le chauffage électrique, par exemple? Est-ce que ce ne serait pas un moyen de...
Je crains, madame, que ça ne serait absolument pas entendu aujourd'hui en France, parce que dans les immeubles où il y a du chauffage central, il n'y a pas de cheminée. Donc, je vais dire quoi aux gens? Fermez votre radiateur et grelottez. Ça ne peut pas être plus simple. Parce que moi, le message, il est, nous allons lancer des travaux d'isolation et nous mettrons des cheminées ou nous ferons de fait que vous pourriez vous chauffer autrement. Mais avant que cette solution ne soit là, ils ne peuvent pas fermer leur radiateur.
Il y a des gens bien compris que le prix de l'électricité a augmenté.
Ce message-là, il est assez simple. Il relie logement, isolation, réchauffement climatique et il répond à des sons. Vous êtes responsable du chauffage électrique. Donc, c'est un message simple, ça.
Oui. Mais bon, je crois que juste aujourd'hui, les gens sont contents de pouvoir allumer leur radiateur électrique. C'est vrai.
Victor Roux.
De l'agence de presse AEDD. Pour revenir sur le gel des infrastructures que vous proposez, comment est-ce que vous comptez résoudre la contradiction dès que certaines collectivités s'engagent dans ces projets? Je pense à Notre-Dame-des-Landes ou au grand contournement ouest de Strasbourg. comment est-ce que vous comptez, quelles propositions faites-vous pour ces propositions?
Mais je commencerai par les geler pour pouvoir réouvrir les discussions. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que Notre-Dame-des-Landes correspond ni aux besoins ni aux désirs de la population. C'est un projet qui a été conçu pour le Concorde. C'est un projet qui a 50 ans, à une époque où on pensait que l'avenir était de plus en plus de transport et avec un développement infini. Aujourd'hui, l'aéroport de Nantes n'est pas saturé et les nuisances dont se plaint le Nantais peuvent être résolues en réorientant la piste, par exemple. Il y a des projets alternatifs à Notre-Dame-des-Landes. Donc, il faut réouvrir les discussions démocratiques. J'ai constaté que ces projets sont portés par des hommes politiques vieux qui étaient là il y a 40 ans et qui en font une question de principe pour eux. Et ils refusent le débat démocratique. Ça, c'est vrai pour le contournement à l'Orient de Hennebon. C'est des décisions anciennes qu'on veut absolument imposer 40 années après, sans nouveau débat.
Il y a une infrastructure dont on parle aussi depuis presque 40 ans, c'est le canal Seine-Nord, un canal destiné à mettre les camions sur le fleuve. Est-ce que c'est aussi une infrastructure dont vous souhaitez geler la réalisation?
Je vais peut-être laisser Sandrine répondre à cette question-là.
Alors Sandrine, je vous en prie. Faut-il geler Seine-Nord?
Ouais. Sandrine est ma conseillère en termes d'environnement et biodiversité. Sandrine Bélier, eurodéputée.
Sandrine Bélier, eurodéputée. Et bien, sur cette question du canal de Seine-Nord, non, ça n'est pas partie des projets dans les priorités de Gênes.
Donc, on le continue.
Encore une fois, ce que disait Eva, c'est pas seulement sur ces grands projets et sur la question des transports. La question des moratoires et du gel pour réévaluer les impacts, parce que ces projets qui ont 40 ans, de pouvoir les remettre sur la table, relancer le débat public, réévaluer les solutions et revoir d'une manière générale le plan national des transports. C'est-à-dire comment aujourd'hui on a une politique des transports. Dans les années 60, c'était le tout routier. Ensuite, il y a eu la grande idée du fluvial et on nous a lancé les grandes logiques de canal, mais de façon, sans l'avoir pensé de façon concertée. Et puis aujourd'hui, c'est les LGV. C'est la grande solution, les LGV. La vraie question qu'on pose aujourd'hui, c'est ce que disait Eva, c'est toujours cette question de complexité et de regarder les choses dans leur ensemble. Sur le plan national de transport, c'est d'avoir cette réflexion, de se dire quelle est la meilleure manière, mais en combinant le fluvial, le routier, on ne va pas fermer les routes, et le ferroviaire, de quelle manière, en allant sur une logique de circuit court, on peut mettre les camions dans telle situation plutôt sur les rails, dans telle autre plutôt sur le fleuve, et dans telle autre, des bouts de route peuvent encore être utilisés. Donc il n'y a pas, enfin on va pas, il ne s'agit pas de nous caricaturer, de penser qu'on veut tout arrêter, que ce soit les projets routiers, telle ou telle infrastructure telle qu'elle a pu être pensée, justement il y a 40 ans, dans les années 60-70. L'idée est bien que toutes ces infrastructures qui ont été réfléchies, dont on a mesuré les impacts il y a 40 ans, de les remettre sur la table, de réévaluer les impacts aujourd'hui au regard des connaissances que l'on a aujourd'hui, au regard de l'artificialisation des sols, et d'envisager un plan de transport national qui prenne l'ensemble des possibilités.
Et l'intermodalité est en place.
Et l'intermodalité.
Elle est en place
aujourd'hui,
depuis des années.
Aujourd'hui, vous avez une base de discussion, c'est le SMIT.
Oui,
c'est pas le programme de la FNUR qui vient de sortir la semaine dernière.
Il dit clairement qu'il n'y a pas d'argent de toute façon pour réaliser les infrastructures qui sont prévues. Donc, à partir de cette base de discussion, qu'est-ce qu'on peut dire au public, dire aux électeurs en disant voilà. Parce que vous dites la complexité, mais ça ne peut pas être un discours porteur. Il faut bien dire des choses concrètes aux gens.
Oui. Alors, si on revient sur le SMIT, tel qu'il a été adopté, il est très très loin des objectifs et des engagements tels qu'il sortait du domaine de l'environnement. l'ensemble des acteurs mondiaux, c'est-à-dire qu'il y a des arbitrages qui ont été faits, et notamment à l'aune de la crise, et l'explosion de la crise financière économique fin 2008, qui sont revenus à ces fameuses logiques de plan de développement de transport des années 60-70. Donc on a un SNIT aujourd'hui qui ne correspond pas du tout aux enjeux tels qu'ils auraient pu être définis. On a d'ailleurs, et au passage, ignoré l'impact de la trame verte et de la trame bleue dans le cadre de ce plan national, alors que c'était l'opportunité justement de voir et d'arriver à avoir une solution d'aménagement du territoire et de transport qui concilie les enjeux de biodiversité et en lieu de transport. Quand vous nous dites comment on peut améliorer cette complexité, il y a une des réponses, Eva l'a esquissée et elle en reparlera. Quand François Bayrou a un slogan produire français, produire et consommer français, sans en décliner les modalités, dans le programme des écologistes et le programme d'Eva Joly, il y a cette question de relocalisation. De relocalisation de la production, de relocalisation de la consommation, que ce soit en termes énergétiques, en termes alimentaires, etc. À partir du moment où on a cette logique de réinvestir les territoires, de revitaliser les territoires et d'aller sur du circuit court, on va penser le transport aussi différemment. Et c'est pas tellement compliqué à expliquer. Que ce soit à l'échelle commerciale et de marchandises, on parlait du transport de marchandises, des camions, des passées orales et fluviales, mais en termes de transport individuel aussi. Si vous revitalisez un territoire, que vous rapprochez les lieux de consommation de vos lieux d'habitation, vos lieux de travail, vous réduisez la distance et l'usage de votre véhicule.
Est-ce que vous n'allez pas alimenter le mitage du territoire ?
Ah non, parce que ça passe justement par une densification urbaine. C'est d'ailleurs toute la contradiction avec l'annonce du gouvernement des 30% d'augmentation du COS. À la fois, ça ne s'inscrit pas du tout dans la logique et lutte contre l'artificialisation des territoires. Et d'un autre côté, on peut imaginer, et après, ce qu'il était nécessaire, je crois que le fait d'augmenter le coefficient d'occupation des sols de 30% n'était pas nécessaire, que ça peut potentiellement contribuer, puisqu'on est sur du bâti existant, à une densification. Mais le vrai enjeu du XXIe siècle en termes d'urbanisme, c'est de densifier nos territoires urbains, c'est de densifier l'existant et de manière à pouvoir garder le maximum d'espace naturel et agricole et qu'on ait une réconciliation entre milieux urbains et milieux ruraux qui permettent aussi, par les circuits courts, de remettre du lien entre l'agriculteur et l'urbain.
L'urbain et l'industriel, comment allez-vous l'attirer au plus près des villes ou au moins loin des consommateurs ?
On donne la parole à Eva.
Non, c'est donc c'est tout un programme, parce que c'est pour moi complètement clair qu'on ne peut pas continuer tous à bouger tout le temps. On ne peut pas continuer à vivre à Marseille, à travailler à Paris, comme on le voit de plus en plus. Les TGV créent ce phénomène des gens qui sont tout le temps, s'ils peuvent payer, en mouvement. Clairement, si on arrête l'artificialisation des territoires, cela veut dire que nos structures de transport qui saturent aujourd'hui, on ne va pas les doubler. Donc, il va falloir que nous modifions nos habitudes, et c'est ça exactement. Nous allons recommencer à vivre plus proche du lieu où nous habitons. Et il n'y a pas d'autre solution si on veut épargner l'environnement et faire moins d'émissions de CO2.
L'une des grandes fioles d'huile pour que ces engrenages fonctionnent, c'est la fiscalité.
Oui.
Et je suppose que vous avez dans vos cartons une grande réforme fiscale qu'ont chacun des candidats, d'ailleurs, parce qu'ils l'évoquent tous, mais sans la décliner. Aujourd'hui, cette révolution fiscale verte, ce serait quoi ?
Je veux d'abord dire que mon programme fiscal à moi, il est connu. Vous le trouvez sur mon site. J'ai présenté mon contre-budget pour 2011 en octobre, au moment de la loi de finances. Donc, je l'ai décliné.
Alors, la loi de finances du quinquennat, ce serait quoi ?
Oui, c'est donc d'abord faire le constat que notre fiscalité aujourd'hui est totalement injuste. Il fait reposer, comme toujours et depuis toujours, la fiscalité uniquement sur les classes moyennes. Les riches et les multinationales y échappent. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est insupportable. Il est insupportable que les artisans et les commerçants payent 26% d'impôts, d'un impôt théorique de 33% en moyenne, alors que les multinationales ne payent que 8% en moyenne. Et la façon de remédier à cela, c'est de mettre un impôt plancher pour les multinationales de 17%, qui fait que, quelles que soient les optimisations fiscales qu'ils utilisent, ils payeront 17%. C'est une petite règle. C'est aussi la fusion de l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée. C'est une réforme très importante parce que, comme vous le savez, la contribution sociale généralisée frappe les revenus du capital de la même façon que les revenus du travail. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, les mesures fiscales purement écologiques qui vous intéressent, c'est évidemment la fin d'abord de toutes les mesures absurdes qui favorisent la pollution, qui favorisent les pesticides. Il y a un taux bas de TVA sur les pesticides. Les carburants sur le vol intérieur sont exonérés. Ça, c'est des absurdités. Nous y remédierons. Et ensuite, il faut instaurer une taxe sur toutes les énergies fossiles. Et je dis bien toutes. Donc aussi l'énergie, toute aussi l'énergie nucléaire.
Donc aussi électrique.
Aussi électrique. Parce que l'idée est de favoriser les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le développement de l'énergie renouvelable est payé par les consommateurs. Une de mes idées est que nous pourrions affecter la rente hydraulique au développement des énergies renouvelables. Parce que le coût de production du mégawattheure de l'énergie hydraulique, comme c'est des installations, des infrastructures amorties et très bas, et c'est une vraie rente. Cela, on pourrait l'affecter pour le développement des éoliennes et du solaire. Et donc, une taxe sur le CO2, donc, pour favoriser le développement et l'usage des énergies renouvelables. Nous pensons, je pense, que la moitié du produit de la taxe CO2 doit être redistribué aux citoyens les plus vulnérables sous forme de chèques verts pour leur permettre d'investir dans la reconversion écologique.
Ça, c'est un petit peu ce que voulait faire le gouvernement au départ avec la contribution climat-énergie.
Peut-être. Je n'ai pas fait une étude comparative, mais ils l'ont abandonné. Moi, je ne l'abandonnerai pas. Et je pense qu'il serait aussi à une hauteur raisonnable pour avoir un effet. D'une part, effet dissuasif sur la consommation. Et un effet, et je voudrais faire de sorte qu'elle n'aggrave pas la situation des plus vulnérables. Ceux qui vivent loin des villes, qui n'ont pas le choix en attendant que les moyens de transport soient développés. Donc, à une préoccupation sociale toujours présente. Nous n'allons pas aggraver la situation des plus vulnérables qui ne peuvent pas le supporter. Parce que la concentration des richesses dans notre pays a été excessive, particulièrement ces 10 dernières années. Et donc aussi revenir à tous les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, revenir à la fiscalité telle qu'elle était en 2000, sur la fortune, sur l'héritage. J'oublie quelque chose, Sandrine. Tu complètes.
Ouais. Il y a des questions.
Il y a une vraie économie à faire qui va souligner et sur l'ensemble des niches fiscales qui sont défavorables à l'environnement. Et donc, ne serait-ce que par cette mesure-là, que ce soit les exonérations dans le domaine des vols intérieurs, mais également dans le domaine maritime, c'est aussi un certain nombre de mesures qui permettent d'aller dans le sens de la préservation de l'environnement.
Vous avez une idée de ce que cette réforme fiscale, enfin, pour ce qui concerne l'environnement, pourrait rapporter en plus à l'État, qui nous permettrait de redistribuer autrement?
Alors, elle n'a pas été chiffrée, mais c'est le rapport, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à consulter le rapport qui a été élaboré par Yann de Saint-Denis. C'est ensuite des conclusions du journal de l'environnement fin 2011 sur l'ensemble des financements publics néfastes à la biodiversité et à l'environnement. François Hollande s'est engagé sur la biodiversité à FNE, mais il s'est engagé à faire une évaluation de ces financements. L'évaluation existe déjà, donc, puisqu'elle a été rendue fin 2011. Et ça fait, donc c'est pas chiffré, mais ça représente des mannes financières et une économie. En période de crise, faire des économies. Puisqu'on nous reproche souvent de vouloir taxer, créer de nouvelles taxes, etc. etc. Là, on ne propose pas de créer de nouvelles taxes, on propose simplement de supprimer l'ensemble d'avantages fiscaux ou de financements publics qui sont néfastes à l'environnement et à la biodiversité. Donc c'est une manne d'argent qui rentre et qui ne sort pas des caisses et qui peut être réinvestie.
Et je complète dans nos mesures fiscales une véritable lutte contre les paradis fiscaux qui prive les caisses de l'État de 40 milliards par an. Je sais comment faire. Je vais copier Barack Obama qui a créé une obligation pour les banques d'avoir à déclarer tous les citoyens américains qui ouvrent des comptes dans leurs succursales, dans les paradis fiscaux. Vous savez que la BNP, elle a 170 filiales et succursales dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, rien ne les oblige à indiquer qui sont les Français qui ont des comptes chez eux, là. Et Barack Obama a imaginé cette obligation sous peine de perdre sa licence bancaire.
Il y a des États des États-Unis qui sont les paradis fiscaux.
Absolument.
Est-ce que dans le cadre de la réforme fiscale...
Pardon. Tu parles aussi de tout ça.
Oui, c'est faux. Équilibré. Pardon, je n'attends pas bien.
Comment est-ce que vous comptez amener les entreprises à prendre en compte les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance?
Oui.
Ouais. Et deuxième question,
très intéressant.
Comment est-ce que vous travaillez avec les ONG, notamment environnementales, pour élaborer votre programme?
D'accord. Alors, j'ai envie de citer le cas de Schneider Electric, implanté à Cognac et Angoulême, qui délocalise en Malaisie la production de leur fameuse boîte électrique métallique. Schneider Electric a un charte éthique qui dit qu'ils prennent l'engagement pour préserver l'environnement de ne pas délocaliser loin de leurs clients. Il se trouve que leur clientèle est à 70% européen. Donc ce qu'ils font là, au détriment de l'emploi en France, c'est aussi en violation de leur charte éthique. Les syndicats, là, engagent des procédures devant les tribunaux pour faire dire que Schneider Electric avait créé des obligations unilatérales. Vous savez, si vous faites une donation, c'est unilatéral, mais ça vous oblige. Donc ça, c'est pareil. Ils veulent vérifier la validation de cet engagement dans la charte éthique. Et dans mes voyages, je me suis aperçue que les syndicats deviennent très sensibles à l'environnement parce qu'ils ont compris que le non-respect des règles environnementales à Uruguay ou à Malaisie est une menace pour leurs emplois à eux. Et ça, je pense que c'est une avancée très importante. Et donc, j'ai deux mesures très novatrice et qui ne coûte pas cher, c'est toujours ça. D'abord, c'est de permettre aux salariés d'avoir la moitié des sièges au conseil d'administration pour que les intérêts long terme et l'intérêt de l'emploi soient pris en considération et pas simplement l'intérêt de la concurrence ou la rentabilité à court terme. Donc ça, je pense que c'est une mesure très importante. Ça se pratique en Allemagne, ça se pratique dans les pays du Nord, et c'est toutes les études faites démontrent que les entreprises qui donnent une large part à leurs salariés se portent mieux, font de meilleurs résultats. Ça, et aussi la création de nouveaux outils à la disposition des salariés, parce que notre arsenal juridique s'est arrêté en 1945. Je pense notamment à Fralib ou à Emeril, vous connaissez peut-être les combats de ces entreprises. Fralib, c'est Lipton qui veut tuer la marque Elephant, qui est une petite marque locale. Il délocalise la production aux portes en Pologne. Et les salariés ont un projet de reprise avec des accords passés avec l'agriculteur local de faire des infusions bio avec des parfums naturels. La clientèle est là, les investisseurs sont là, mais Fralib ne veut pas vendre parce qu'ils veulent tuer la concurrence. Et c'est la même situation en Normandie, dans Emeril. C'est la papeterie la plus moderne d'Europe, un investissement récent de 600 millions d'euros. Et Emeril veut simplement fermer les sites. Les salariés, eux, ont un projet de reprise. Ils veulent recycler du papier usagé de la défense qui vient par la Seine en direct. Aujourd'hui, le papier est recyclé en Chine et vous imaginez l'impact. Ils embaucheraient même jusqu'à 100 nouveaux salariés. Ils ont les investisseurs prêts à racheter l'entreprise. Mais les Finlandais ne veulent pas vendre. Donc moi, j'ai envie de concevoir un instrument qui obligerait à vendre. Exactement comme les collectivités territoriales peuvent obliger peuvent exproprier dans l'intérêt public. On doit pouvoir obliger les entreprises récalcitrantes dans l'intérêt général et dans des éléments, dans des circonstances exceptionnelles à vendre au prix du marché. Il ne s'agit pas de confisquer, il s'agit de sauver l'emploi parce que par exemple pour Emeril qui est une papeterie depuis 1920, c'est très pollué. Il y a des installations maintenant dépolluantes aux meilleures normes européennes. Et si on laisse tout cela partir à volo, dans quelques années, on créera une nouvelle papeterie qui polluera de nouveau un site. Donc il est dans l'intérêt public que ce site reste papeterie. Et cet instrument-là n'existe pas, mais je le créerai.
Il y avait une question. Il y avait une autre question.
Autre question. Il faudrait parler un peu plus fort parce que là.
Comment est-ce que vous travaillez avec les ONG pour
Alors, d'abord dans mon équipe, j'ai énormément de personnes qui viennent des ONG. Ce n'est pas moi qui ai élaboré le programme d'Europe Écologie Les Verts, mais ce sont les commissions, la commission environnement, la commission santé, qui depuis des années ont élaboré ce programme. Donc, je vais laisser la parole à Sandrine, qui est dans la commission environnement, pour qu'elle explique comment on a construit ce programme avec le meilleur de partout.
Les relations avec les ONG dans le cadre du programme donc d'Europe Écologie Les Verts et du programme d'Eva Jolie, dont vous aurez l'exclusivité samedi. Il faudra attendre samedi.
Vous croyez qu'on aura l'exclusivité
samedi? Oui. Enfin, sur l'exclusivité publique.
Mondiale.
Mondiale, oui.
Et mondiale. Ce qui va changer par rapport. Le programme a été élaboré. Alors, il y a en effet à Europe Écologie, notamment sur les questions environnementales, vous le savez, on est arrivé avec Eva en 2009, les trois grandes familles de l'écologie, que sont France Nature Environnement, l'Alliance pour la Planète et la Fondation Nicolas Hulot, en la personne de Jean-Paul Besset, Yannick Jadot et moi-même. Donc on a vécu le Grenelle de l'environnement, on part avec l'ensemble des discussions, enfin on a encore et on porte en nous l'ensemble des discussions qui ont eu lieu pendant cet exercice. Les engagements qui sont une grande part du projet qui est le nôtre aujourd'hui. Et puis ensuite, ce sont des auditions. On rencontre Eva Julien, rencontrer Conscience sur l'environnement, rencontrer Greenpeace. Ensuite, il y a une délégation. Il y a des délégations. Moi, j'étais la semaine dernière avec les directeurs de développement durable des grandes entreprises.
C'est ça, c'est le travail du Parlement, qui ressemble à celui des commissions du Parlement. Vous auditionnez les experts.
On auditionne, on lit les propositions. Il y a beaucoup, l'ensemble de la société civile, que ce soit dans le domaine de l'environnement, mais dans d'autres, domaines social comme la Fondation Abbé Pierre, ont rédigé. C'est une période assez favorable et propice à ce type d'exercice. On rédigeait des propositions, des interpellations des candidats. Donc nous sommes interpellés par sous le format questionnaire. On nous demande de réagir aux propositions des uns et des autres, et ça depuis juin, ça a commencé, oui, à la rentrée en septembre 2011. Donc c'est de cette manière-là qu'on travaille. Et dans les propositions que porte Eva, il est évident, et dans les priorités, elle retrouve de façon assez naturelle les principales propositions qui sont portées par les ONG environnementales. Le principe de l'organisation, c'est la Société française au droit de l'environnement, Michel Prieur, et France Nature Environnement. Le principe de toutes les mesures de non-artificialisation des territoires, de relocalisation, c'est France Nature Environnement. Les positions sur le nucléaire, bien entendu, et transition énergétique, c'est Mégawatt, c'est Greenpeace. C'est là que les idées prennent leur source. Hein. On ne réinvente pas l'eau tiède et on n'a pas raison tout seul et on ne détient pas les solutions.
Est-ce que du côté du monde de l'entreprise, il y a aussi des propositions qui vous semblent intéressantes?
Oui, alors justement, moi, j'étais assez parlée de la responsabilité de la RSE. La semaine dernière, dans le cadre d'un débat sur le développement durable avec les directeurs de développement durable des grosses entreprises, donc ça va de la SNCF en passant par Renault, c'est une centaine, c'est encore regroupé en association, une centaine de directeurs du développement durable. Dans la période actuelle, ils sont plutôt favorables au développement de la RSE pour qu'il y ait un réengagement de leur entreprise, pour qu'en effet, on pousse la responsabilité sociale des sociétés mères. On savait que c'était une grosse discussion pendant le Grenelle de l'environnement et qui aujourd'hui fait l'objet de discussions au sein de l'Union européenne et de la Commission qui est en train de travailler sur un texte sur la RSE à l'échelle de l'Union européenne. Ils y sont assez favorables parce que ils en ont besoin pour maintenir les activités sur le territoire français.
Ça vient d'ancrer l'activité.
Pour maintenir et justifier leur propre fonction au sein de ces entreprises qui vont vers davantage de développement durable, davantage d'engagement. Et ça, c'est aussi une des mesures du coup qu'on porte de labellisation environnementale, de repousser aussi dans l'incitation. Eva évoquait le combat sur l'étiquetage, l'information des consommateurs. Il y a dans le changement culturel, les changements de mode de consommation, dans le mode incitatif, il y a vraiment aussi à pousser sur de l'affichage, de la labellisation de ces entreprises qui aujourd'hui donnent du sens à leur activité, dans le respect de l'environnement et dans le respect de la dignité humaine.
J'en reviens à la monogamie du concret. Est-ce que, par exemple, vous souhaiteriez pousser plus en avant ou favoriser des entreprises qui seraient labellisées ISO 26000, donc la labellisation RSE portée par l'ISO? Même chose pour celles qui ont une pratique environnementale reconnue, qui sont certifiées EMAS ou ISO 14000. Est-ce que vous pourrez donner un coup de pouce à ceux qui sont moteurs, exemplaires enfin.
Je pense qu'à travers les appels d'offres des collectivités territoriales, cela peut être un critère. Et en tout cas, la distance, c'est, je l'ai vu dans beaucoup de communes, ils mettent la proximité comme un des critères. et notamment pour...
Sur le plan cantine.
Mais 20% de production locale.
Sur les cantines, c'est ça, ils font. Si on ne le formule pas, il faut que ça vienne d'un rayon de 50 km. On est obligé de contourner, de faire des...
Voilà. Disons que la volonté, nous l'aurons, et que si le code de marché public pose trop de problèmes, je pense que les critères environnementaux peut être un des éléments dans les appels d'offres. Nous travaillerons aussi au niveau européen pour mettre une taxe à l'entrée des produits et même carrément interdire l'accès aux marchés les plus solvables au monde, aux produits qu'ils ne respectent pas dans leur pays de production, les codes environnemental et social. Le respect des règles, sur le respect du droit syndical, par exemple.
Ça, est-ce que l'ONC prévoit ça, le permet
la question sur,
mais comment, ça, nous pouvons le faire.
Comment vous vous engagez sur la préparation de Rio+20, ça nous amène directement à ça.
Oui.
Et quelle position vous avez par rapport à la proposition française de l'OME, justement, est-elle faible? Comment la jugez-vous? Que proposez-vous? Et notamment au regard de l'OMC. Et voilà.
Oui, et donc, nous voulons la création d'une agence mondiale de l'environnement. Et nous voulons que les critères environnementaux soient centraux et non pas uniquement un accessoire. Ça, c'est vrai qu'il faut que nous changeons de perspective là-dessus. Et nous souhaitons avoir des objectifs ambitieux pour Rio+20, des réductions plus fortes que 25%, 40%. Nous souhaitons 40% de réduction d'ici...
De quoi?
Des émissions de CO2.
Oui, mais vous allez être tenu par la négo européenne.
Oui, c'est sûr. Mais bon, nous, on peut avoir une ambition forte.
Oui. Et vous n'étiez pas présent lors de la grande réunion qui a eu lieu mardi dernier?
Moi, j'étais invitée. Et c'est une de mes assistantes qui est allée. Et qui a passé la journée donc sur ces deux jours qui ont été organisés, qui étaient relatifs
et qui contribuent plus largement sur la gouvernance. La réunion internationale
nous
qui a sur la gouvernance mondiale.
Nous n'avions pas l'expression. Pourquoi moi c'est une assistante qui est allée, c'est qu'en effet j'ai été invitée par la ministre de l'Environnement, mais je n'étais pas invitée à m'exprimer. Donc il y a un moment, je vais le dire gentiment, j'ai entendu plutôt Ben, j'ai du travail. J'adorerais pouvoir passer mes journées dans des colloques, etc. Vous imaginez, c'est pas possible. Bon, on a cette chance d'avoir des assistants parlementaires, donc de pouvoir se cloner. Donc moi, j'ai une de mes assistantes qui a passé la journée, qui m'en a fait un compte rendu, les positions des uns et des autres. Manifestement, Bettina Lavie est toujours très très bien dans le ton et est intervenue, l'intervention qui rejoint assez nos positions. Voilà,
ma question est autre. La veille, tous les groupes et toutes les parties s'étaient réunis pour faire.
Nous n'étions pas.
Et l'appel n'a pas été bon.
Nous n'avons pas été invités à contribuer. Donc, vous savez, on est au prélude d'une élection présidentielle. Donc, pensez bien que Nathalie Cussis-Louis, qui joue le rôle de l'UMP, ne va pas inviter. La force grise écologiste, oui, pour venir expliquer comment il faudrait quelles sont les mesures qu'on va porter en termes de gouvernance, qu'on ne va pas se contenter d'afficher qu'on veut une OME, qu'aujourd'hui on est à l'état, nous on pousse à une organisation mondiale de l'environnement, mais quelle est sa feuille de route, quel est son statut, quelle est son enveloppe budgétaire, est-ce qu'on lui donne le statut minimum en termes juridiques de l'OIT? Est-ce qu'on la met au niveau de l'OMC? Est-ce qu'on introduit des règles d'obligation de principe de précaution à l'OMC? Est-ce qu'on part et plus loin sur la gouvernance? Quelle est la place de la société civile dans la gouvernance onusienne aujourd'hui? C'est zéro, le draft zéro de Rio+20 n'y met rien, alors qu'on a des clés, alors qu'on a une expérience française, la révision du Conseil économique et social, qui est devenu le Conseil économique et social et environnemental. Moi, je peux en parler, ça fait partie de ce que l'UMP ne portait pendant le relais. On a un Conseil économique et social onusien, symboliquement à Rio, mettons le quatrième mot, Conseil économique et social et environnemental. Introduisons un corps deux représentants des intérêts environnementaux, posons-nous la question de la représentativité des intérêts environnementaux au niveau mondial, et il y a tout. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Nathalie Cusson-Morel n'a pas forcément envie d'avoir ce débat avec nous, parce que...
Elle a été portée par les ONG.
Mais c'est heureux. Il s'agirait qu'il soit porté politiquement, puisque justement, les ONG, aujourd'hui, la société civile n'a qu'un rôle de...
La question.
D'observateur au niveau international, et que c'est bel et bien la France et l'Union européenne, qui par contre sera autour de la table pendant 4 jours sur la négociation, et qui, elle... devra être en capacité de se faire le porte-voix et qui représentera, eh bien, nous verrons à ce moment-là.
Voilà, voilà, c'est ça. Tout l'enjeu est là, hein, c'est le vote.
On va devoir conclure parce qu'il est bientôt l'heure. Nous sommes à 2 mois des élections présidentielles. Quelles sont vos dernières priorités? Comment comptez-vous occuper ces 2 mois?
D'abord, je voudrais dire que mes journées sont déjà bien pleines et je n'arrête pas vraiment de sillonner le territoire, de rencontrer des citoyens et de tenir des discours, de m'exprimer, de faire des tribunes, de faire des tweets. J'ai déjà demandé qu'il y ait un tweet qui répond à Eric Besson pour que ça soit en temps réel, parce que maintenant, c'est en temps réel. Donc, il faut peut-être que je vous parle un peu de notre campagne, je veux dire. Qu'est-ce qui distingue la campagne du MP de la campagne d'Europe Écologie Les Verts, quoi. D'abord, le budget, c'est une grande différence. Je suis très heureuse que ce parti, qui est si peu fortuné, ait à l'unanimité voté un budget de 2 millions. Mais c'est quand même moitié de ce qu'avait Noël Mamère en 2002, sans tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Donc, en réalité, j'ai un tiers de ce qu'avait Noël Mamère. Ce qui veut dire que je ne peux pas salarier beaucoup de monde, que l'équipe est très réduite. Aujourd'hui, il y a 9 personnes qui travaillent sur ma campagne. Je pense que lorsque Nicolas Sarkozy sera en campagne, c'est 200 personnes qui vont être sur les quelques milliers de mètres carrés. Là, moi, je n'ai pas de QG. Mais ce que j'ai une énergie militante autour de moi, j'ai des bénévoles, j'ai des membres d'Europe Écologie qui ont accepté de faire partie de ma ruche et qui me nourrit gratuitement, il faut bien le dire, comme Sandrine et tant d'autres.
Vous êtes la reine des abeilles.
Je suis la reine des abeilles. Et ça, c'est une situation confortable. Et si vous me voyez aujourd'hui de bonne humeur, c'est justement parce que cette situation-là, d'être celle qui est nourrie, et elle, ça, on ne peut pas nous l'enlever. Et je pense qu'à l'UMP, ça, ils ne l'ont pas. J'ai vu le reportage sur la cellule Riposte UMP dimanche dernier à Canal+, et quand j'ai vu la tête des jeunes UMP, je me suis dit, il ne ressemble pas au mien. Il ne ressemble pas au mien. Et donc, le trésor que nous avons, je dis que nous avons 2 trésors, c'est le programme élaboré avec les meilleurs, avec ceux qui connaissent vraiment l'environnement depuis 30 ans. On est ancré dans l'histoire. Nous n'inventons pas les problématiques de l'environnement. Nous les connaissons. Donc, le trésor, notre programme, il ne tient pas en 3 slogans. Il tient en 100 pages. C'est un trésor. Et l'autre trésor, ce sont les jeunes qui sont avec nous, que vous trouvez à la chocolaterie, notre siège, ceux qui font, qui animent les sites et toutes les animations sur les réseaux sociaux, sans moyens, je dirais, avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme. Nous avons un site, je crois, remarquable. Ce qui fait qu'avec si peu de moyens, on est plus présent que ce que les moyens devraient anticiper. Et ça, malgré tout, c'est une victoire pour la cause écologique. Et donc, c'est avec ces armes de guerre-là que je suis en campagne. Mais il faut aussi nous prendre et me prendre pour ce que nous sommes. Je pense qu'un atout que j'ai, c'est aussi d'être jeune en politique et de porter ce trésor car je pense que l'avenir, elle est dans nos idées, à nous, novatrices, et non pas dans les personnes qui sont en politique depuis 40 ans. Nicolas Sarkozy était déjà dans les médias lorsque Nixon était président des États-Unis. Donc, comment attendre que le renouveau vienne d'un personnel vieux? Je dirais que François Bayrou a été ministre et est en politique, pareil, depuis plus de 30 ans. Et c'est également le cas de François Hollande. Donc, je pense que le trésor que j'ai, c'est ce programme nourri par vous, c'est l'énergie militante et c'est l'enthousiasme des jeunes qui m'entourent. Voilà.
Merci, Madame Joly.
Quelques minutes,
comme je disais, j'adorerais passer ma journée dans les colloques à écouter les...
On a priorisé, c'est-à-dire que Eva, dans le programme global des écologistes,
Personnellement, bon, mais c'est la littérature classique, hein, je la connaissais, mais il y a différents sujets, le programme, la candidature, le ministre.